Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le théorème du parapluie, ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, est un essai de vulgarisation scientifique de Michael Launay, mathématicien connu notamment pour son travail de transmission auprès du grand public. Publié en 2019, l'ouvrage ne propose pas un cours systématique de mathématiques ni un panorama exhaustif de la physique. Il organise plutôt 5 parcours autour de questions qui contredisent spontanément le sens commun. Des prix de supermarché au trou noir, Launay montre comment une énigme apparemment concrète peut exiger un déplacement du regard, une abstraction ou un nouvel outil conceptuel. Le parapluie du titre désigne cette opération intellectuelle quitter provisoirement la perception immédiate afin de revenir au réel avec une description plus pertinente. Le livre articule histoire des sciences, expérience de pensée, dessin et raisonnement progressif. Il aborde notamment la loi de Benford, les logarithmes, la gravitation, les fractales, les géométries non euclidiennes et la relativité. Son objet central est donc moins une collection de résultats que la manière dont les mathématiques permettent de corriger, préciser et parfois renverser nos intuitions. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la loi de Benford révèle la différence entre intuition additive et phénomène multiplicatif. Le premier grand fil du livre part de la loi de Benford selon laquelle, dans de nombreuses listes de données naturellement produites, le chiffre initial 1 apparaît beaucoup plus souvent que le 9. Cette régularité semble absurde si les chiffres sont supposés avoir la même chance de commencer un nombre. Launay utilise ce paradoxe pour distinguer deux façons de penser les quantités. Une intuition additive imagine des intervalles égaux, comme le passage de 1 à 2 ou de 8 à 9. Or, de nombreux phénomènes réels évoluent plutôt par rapport, croissance, variation d'échelle ou multiplication. Dans une telle structure, passer de 1 à 2 représente un doublement, tandis que passer de 8 à 9 est une variation relative faible. Les premiers chiffres ne sont donc pas répartis uniformément. L'explication conduit aux logarithmes et à leur intérêt historique, transformer des multiplications en additions fournit aussi une manière de représenter les grandeurs selon l'heure. Ordre de grandeur. Ce chapitre illustre efficacement la méthode de l'ouvrage. Une curiosité statistique ne reçoit pas une réponse technique immédiate. Elle devient le point de départ d'une réflexion sur les nombres, les usages du calcul et les cadres mentaux qui rendent un résultat compréhensible. Le lecteur voit ainsi pourquoi un changement de représentation peut résoudre une difficulté sans modifier les faits observés. Deuxièmement, la gravitation et les mesures terrestres déstabilisent les évidences spatiales. Le livre examine ensuite des situations où les mots ordinaires, comme haut, bas, droit ou centre, paraissent stables, mais dépendent en réalité du cadre adopté. La gravitation sert ici à défaire une représentation trop simple de la Terre et du mouvement. Dire qu'un fleuve coule vers le bas, par exemple, ne signifie pas qu'il se dirige vers le bas sur une carte, il suit localement la direction imposée par la gravité. De même, la question du sommet le plus élevé ou du point le plus éloigné du centre terrestre exige de préciser la référence de la mesure. L'altitude au-dessus du niveau marin, la distance au centre de la Terre et la forme réelle de notre planète ne répondent pas à une seule et même question. Launay ne traite pas ces exemples comme de simples curiosités. Il montre qu'une erreur fréquente consiste à croire qu'une propriété est absolue alors qu'elle résulte d'une convention, d'un instrument ou d'un repère. Le parapluie devient alors une image de la médiation intellectuelle, une action discrète, parfois invisible dans la description initiale. Modifie profondément ce que nous pouvons faire ou comprendre. Cette partie relie ainsi observation quotidienne et raisonnement scientifique, en soulignant que la précision commence par la formulation exacte de ce que l'on veut mesurer. Troisièmement, les fractales et les infinis montrent que mesurer suppose de choisir une échelle. La réflexion sur les fractales permet au livre de traiter l'infini non comme une extravagance abstraite, mais comme une conséquence de certaines procédures de mesure. Une côte ou une frontière sinueuse semble posséder une longueur définie. Pourtant, plus l'unité employée pour suivre ces détails est petite, plus la longueur mesurée peut augmenter. Avec des formes fractales idéales, ce processus ne se stabilise pas, la longueur devient infinie dans le modèle, alors même que la figure demeure contenue dans un espace fini. Ce résultat ne signifie pas que les cartes sont inutiles ou que toute mesure est arbitraire. Il impose au contraire de préciser l'échelle, la méthode et le modèle retenu. Launay relie cette difficulté à la notion de dimension fractale, qui ne se laisse pas toujours enfermer dans les catégories familières de lignes, surface et volume. Le sujet éclaire un aspect essentiel de la pensée mathématique, les définitions permettent de prolonger le raisonnement au-delà des images immédiates. Mais elles exigent aussi une attention rigoureuse aux conditions de validité. Le chapitre ouvre sur les travaux associés à Cantor et Mandelbrot, sans réduire leurs idées à des anecdotes. Son apport pédagogique est de faire sentir que l'infini peut surgir au sein de problèmes concrets de découpage et de mesure. et que le bon résultat dépend souvent de la question effectivement posée. Quatrièmement, les géométries non euclidiennes font de l'abstraction un outil pour penser autrement. Une autre étape importante concerne la géométrie et le statut des axiomes. Launay revient notamment sur la question des parallèles associés à Euclide afin de montrer que les règles de la géométrie plane ne sont pas les seules règles logiquement concevables. Sur une sphère, les trajectoires correspondant aux lignes les plus droites possibles peuvent se rencontrer, ce qui contredit les réflexes formés par le dessin sur papier. L'enjeu ne consiste pas seulement à ajouter une géométrie exotique à la géométrie scolaire. Il s'agit de comprendre que les mathématiques construisent des cadres cohérents puis examinent ce qui découle de leurs hypothèses. Les concepts de couleur, de forme ou de droite peuvent également recouvrir des réalités moins simples que leur emploi courant ne le laisse entendre. Cette partie insiste donc sur le rôle du langage et de la définition. Lorsque des interlocuteurs emploient le même mot, ils ne visent pas nécessairement la même propriété. L'abstraction ne coupe pas la science du monde, elle rend possible une analyse plus précise des structures. Les géométries non euclidiennes ont d'ailleurs acquis une importance physique dans la compréhension moderne de la gravitation, en reliant ambiguïté du vocabulaire. Convention de représentation et rigueur déductive, le livre explique pourquoi regarder autrement ne revient pas à relativiser tous les faits, mais à rendre explicites les règles selon lesquelles ils sont décrits. En dernier lieu, espace-temps et relativité déplacent la question du mouvement vers les référentiels. La dernière partie conduit le lecteur vers la relativité restreinte, puis ouvre sur la relativité générale et les trous noirs. L'approche retenue privilégie la représentation de Minkowski, où espace et temps ne sont plus étudiés comme deux cadres entièrement séparés. Ce déplacement aide à comprendre pourquoi des observateurs en mouvement relatif peuvent décrire différemment des durées et des distances tout en partageant les mêmes lois. Physique. L'exemple du voyage à la vitesse de la lumière ne doit pas être reçu comme une formule spectaculaire, il renvoie à la place centrale de la vitesse de la lumière dans la structure de espace-temps. Le livre ne prétend pas remplacer un traité de physique théorique. Il propose plutôt les intuitions nécessaires pour abandonner des catégories trop immédiates, notamment une idée universelle du présent ou du repos. La relativité générale est abordée comme un prolongement où la gravitation ne se réduit plus à une force agissant dans un espace fixe, mais se lie à la géométrie de l'espace-temps. Cette progression donne une portée rétrospective au chapitre précédent. Les logarithmes, les échelles, les géométries et les repères ont préparé le lecteur à accepter que les outils abstraits produisent des descriptions du réel plus fécondes que le langage ordinaire. La difficulté croissante de cette section constitue aussi une limite assumée certaines notions, demandes, relecture et temps de réflexion. En conclusion, le théorème du parapluie conviendra aux lecteurs curieux de science qui souhaitent comprendre des idées mathématiques et physiques sans entrer dans un manuel universitaire. Il peut aussi intéresser les enseignants, les adolescents à partir du secondaire et les adultes qui gardent de leurs études une relation hésitante avec les mathématiques. Le bénéfice principal ne réside pas dans la mémorisation de formules. Le livre apprend à identifier les hypothèses cachées dans une question, à distinguer une propriété mesurée de la méthode de mesure, et à accepter qu'un repère différent puisse éclairer un même phénomène. Ces habitudes de raisonnement sont utiles bien au-delà des thèmes scientifiques traités, par rapport à de nombreux ouvrages de vulgarisation organisés par discipline ou par biographie de savants. Celui de Launay se distingue par sa construction autour de paradoxes et de changements de point de vue. Chaque enquête relie un fait quotidien à une idée plus générale, puis à son histoire et à ses conséquences conceptuelles. Les illustrations et la progression narrative soutiennent cette démarche, sans supprimer totalement la résistance propre aux sujets les plus avancés. Les lecteurs recherchant une démonstration complète de la relativité générale ou une formation technique devront poursuivre avec des textes spécialisés. En revanche, ceux qui veulent comprendre pourquoi les abstractions mathématiques sont utiles au réel trouveront une synthèse particulièrement cohérente. Launay ne présente pas les mathématiques comme un répertoire de recettes, mais comme une pratique de reformulation qui permet de mieux voir ce que nos intuitions masquent. Si vous souhaitez soutenir Michael Launay, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.